Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. De plus en plus de voix dissidentes au sein de la majorité présidentielle invitent le chef de l'État à répondre sans tarder aux gilets jaunes, l'impôt sur la fortune, la loi anti-casseurs, le dialogue social. Nous nous attarderons avec Benoît Bouscarel sur les enjeux et dossiers qui font débat. Robert Biedroń, 42 ans, météorite politique polonaise, lance aujourd'hui à Varsovie la campagne de son mouvement pour les européennes et vous verrez qu'il y a dans l'ascension de ce quadra quelque chose du candidat Emmanuel Macron en 2017. Nicolas Maduro fait vibrer la corde anti-impérialiste. L'héritier d'Hugo Chavez fait face à une nouvelle manifestation de l'opposition aujourd'hui. Commentaire du spécialiste du Venezuela Thomas Posado. La face cachée du globe signée Nabila Hamel nous emmène entre autres ce dimanche au Bahreïn. Enfin, nous rendrons hommage à une étoile filante du théâtre contemporain, l'ange de l'œuvre de Pippo Del Bono, Vincenzo Cannavacciuolo di Bobo, est décédé à l'âge de 82 ans. Trouver au mieux une issue, au pire une échappatoire à cette contestation inscrite dans la durée qui renvoie l'exécutif à ses chères études, les gilets jaunes qui ont mis les partenaires sociaux sur la touche, hantent les esprits des stratèges qui entourent le chef de l'État. L'instrument politique privilégié est connu de nos services, il s'agit d'un référendum. Un référendum dont le sommaire n'est pas arrêté. Bonjour Benoît Bouscarel.
Bonjour Mathieu.
Benoît, une certitude au sein de la majorité, des élus s'activent pour faire bouger des lignes.
Oui, ça bouge Mathieu. Et au-delà de la question du référendum, la loi anti-casseurs donne en ce moment des occasions aux voix discordantes internes à la majorité, à ses grondeurs. Il y en a. Aurélien Taché, ce matin, dans les colonnes du journal du dimanche, par exemple, explique qu'en l'état, il n'est pas question pour lui de la voter, cette loi, pour le député du Val-d'Oise. C'est l'article 2 qui pose problème en donnant trop de pouvoir au préfet pour restreindre le droit de manifester. Alors, dans la période délicate que traverse l'exécutif, une montée en puissance de ses grondeurs pourrait ne pas être franchement une bonne nouvelle, sauf si les voix qui s'élèvent ici ou là peuvent permettre de trouver des solutions, d'explorer des chemins politiques étroits permettant de sortir des impasses. Écoutez par exemple Jean-François Cesarini, député LREM du Vaucluse, qui lui propose ce matin de reconsidérer la question de l'ISF.
La promesse du candidat Macron, c'est de dire j'enlève l'ISF et vous verrez cet argent-là va rentrer dans l'économie réelle. On dit, soyons alors plus incitatifs que ça, pour à la fois relever et vraiment assumer cette promesse. C'est-à-dire, quand on investit cet argent-là, dans des TPE, dans des PME, dans des start-up, alors effectivement, vous ne payez pas l'ISF. Si vous faites dormir votre argent, alors vous payez l'ISF.
Voilà, proposition pour revenir en partie sur cette question. Ça n'a l'air de rien, Mathieu, mais il y a quelques mois, une proposition comme celle-là, qui ne relève finalement que du fonctionnement normal d'une majorité qui vit et qui fait son travail, aurait probablement été très mal perçue par les gardiens du temple d'En Marche.
Merci à vous, Benoît Bouscarel. Disruptif, un qualificatif qui fait fleurir dans les alcôves du pouvoir, pourrait convenir pour définir Robert Biedroń, homme politique que l'on compare volontiers à Emmanuel Macron en Pologne. À 42 ans, Robert Biedroń a la ferme intention de briser la domination des deux principaux partis du pays qui cannibalisent l'espace politique. Depuis la chute du communisme, Robert Biedroń, de gauche, athée pour la séparation de l'Église et de l'État, ne faisant pas mystère de son homosexualité, lance son mouvement ce dimanche à Varsovie et le positionne en vue des élections européennes. Pour prendre la mesure de son rayonnement naissant, notre correspondant en Pologne, Thomas Giraud, Rodo s'est rendu dans la ville qu'il a administrée pendant 4 ans, Słupsk, dans le nord du pays.
Dans une des rues commerçantes de Słupsk, Jacek, attablé en terrasse, café à la main, sourit à l'évocation de l'ancien maire.
Il a fait beaucoup de bonnes choses pour la ville. Des routes ont été construites. Il a aussi consacré davantage d'argent à la rénovation des appartements, des maisons. Son mandat est très positif.
En 4 ans, un quartier juste à côté de la mairie, anciennement très pauvre et insalubre, a été totalement transformé. Robert Biedroń se vante aussi d'avoir réduit de près de 10 millions d'euros la dette de la ville. Mais ce n'est pas cela que retient Beata, cette grand-mère vend des fleurs dans la rue.
Je ne l'accepte pas à cause de son orientation. Je ne devrais pas pouvoir exercer de fonction. Je suis catholique et donc je fais une différence entre les hommes comme lui et les hommes normaux. C'était peut-être un bon maire, mais son orientation, ce n'est pas possible.
L'homosexualité de Robert Biedroń, tous les habitants en parlent, en bien ou en mal, mais aucun ne prononce le terme d'homosexuel comme un tabou. C'est un obstacle à son ascension politique pour le directeur du théâtre de marionnettes de Słupsk, Micha Outramer.
Il ferait un très bon président de la République. Cela améliorerait l'image de la Pologne et la tolérance envers les personnes LGBT. Mais avec la place qu'occupe encore l'Église dans mon pays, c'est trop demander aux Polonais que de voter pour un homosexuel. Ils ne sont pas prêts.
Mais Robert Biedroń croit en ses chances. Il refuse pour l'instant de s'allier avec le Parti conservateur au pouvoir ou ses opposants de centre-droit, tous deux trop éloignés de ses idées libérales et de gauche.
Au Venezuela, l'opposition renouvelle pour aujourd'hui son appel à manifester pour demander la démission de Nicolas Maduro, qui lui avance l'idée d'élections anticipées. L'héritier d'Hugo Chavez ambitionnerait de renouveler ainsi un parlement où son parti est minoritaire. Nicolas Maduro n'a pas dit mot hier de l'ultimatum de 6 pays européens, dont la France, qui lui avait laissé 8 jours pour convoquer une nouvelle présidentielle. Cet ultimatum expire ce soir. Quel est le rapport de force au lendemain de larges mobilisations dans le pays? Quels sont les vecteurs de mobilisation dans chaque camp? Élément de réponse avec Thomas Posado, docteur en sciences politiques à l'Université Paris 8.
Le fait que les États-Unis aient une politique aussi belliciste à l'égard de Caracas permet à Nicolas Maduro de remobiliser une base sociale qui est épuisée par des pénuries de médicaments, d'aliments. Ce qui mobilise du côté de Juan Guaido, c'est une voie pour faire partir Nicolas Maduro, une voix qui était un peu désespérée jusqu'à ces dernières semaines. Cette autoproclamation comme chef de l'État, puis cet appui à l'international, assez peu dans le pays. Enfin, il n'y a pas eu de militaires qui ont changé de bord, il y a eu des manifestations mais qui n'ont pas été de nature à renverser le pouvoir. Mais cet appui d'une partie de la communauté internationale permet de donner des espérances à une partie de la population qui du coup se mobilise assez massivement ces derniers jours.
Et est-ce que à ce stade le départ de Nicolas Maduro vous semble inéluctable ou en tout cas possible?
Potentiellement oui. Maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on l'annonce, ça fait plusieurs fois qu'on peut imaginer que c'est un départ inéluctable vu l'ampleur de la crise politique, vu l'ampleur de la crise économique. Et pourtant, il a manifesté d'une certaine capacité de résilience, principalement parce qu'il a le soutien de l'armée et le soutien de créanciers étrangers comme la Russie et la Chine. Quel que soit le dirigeant, Nicolas Maduro, Juan Guaido ou une autre personne, la sortie de crise au Venezuela sera un phénomène de temps long. La déliquescence de l'économie vénézuélienne et de la société vénézuélienne est extrêmement profonde.
Voilà le chercheur Thomas Posado avec Clotilde Ravel. Le metteur en scène Pippo Del Bono et le théâtre, dans ce qu'il a d'insaisissable et de magique à la fois, a perdu l'une de ses pierres angulaires. Vincenzo Cannavacciuolo di Bobo est décédé à l'âge de 82 ans. Il avait passé la moitié de sa vie en hôpital psychiatrique. C'est d'ailleurs dans cet établissement psychiatrique que Pippo Del Bono l'a rencontré.
Bobo, il voulait sortir de cet hôpital-là. Alors, au début, pratiquement, je l'ai kidnappé un peu. Il y avait un psychiatre qui était d'accord. Mais c'était un acte un peu illégal. Mais là aussi, il appartient à un moment de la vie que je te dis un autre vaffanculo, parce que moi, j'étais complètement malade. Alors, à ce moment-là, un acte de prendre Bobo qui voulait venir avec moi, c'était, comme je dis dans le film Rideau, pas pour sauver lui, pour sauver moi.
Voilà un entretien de Pippo Del Bono en 2010 au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon. Bobo, né microcéphale, sourd-muet, et Pippo Del Bono ne faisait qu'un sur scène. Manon Clavry a sollicité le regard de Joëlle Gaillot, productrice de l'émission Une saison au théâtre sur notre antenne.
C'est effectivement un choix complètement politique, parce que Pippo Del Bono a toujours travaillé la question de l'altérité, celle de l'autre, celle de la différence, et au-delà de ça, dans tous ces spectacles, il y avait quand même ce message qui était comment est-ce qu'on peut exister dans un monde normé, un monde aujourd'hui de vainqueurs, de conquérants, où si on veut être au sommet, il faut répondre à des exigences d'efficacité et être au fond, d'une certaine manière, représenté comme étant du côté des vainqueurs. Or, ce que montrait Pippo Del Bono, c'était les autres. C'était ceux qui étaient exclus, c'était ceux qui étaient à la marge, c'est ceux que dans la rue, on ne voit pas, parce qu'on ne veut plus les voir ou parce qu'on ne sait plus les voir. Donc effectivement, la présence de Bobo sur son plateau, dans ses spectacles, c'était une façon de dire ces gens existent, ils sont parmi nous, ils ont des choses à nous dire. Tendez l'oreille, regardez-le, ils méritent qu'on les prenne en considération. Oui, c'était effectivement un choix politique.
Et hommage est rendu à Bobo en Italie. L'acteur est un oiseau dont une aile touche la terre, tandis que l'autre se tient dans le ciel. Hommage sur le site internet du théâtre Erte Emilia Romagnol qui allait accueillir le dernier spectacle de Pippo Del Bono le mois prochain. Il est presque 12h40, c'est l'heure de la face cachée du globe, tournée vers la région du Golfe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Le salaire minimum augmente de 11% en Grèce à 650 euros. C'est un léger mieux depuis la crise de la dette qui a raboté les salaires de la population en 10 ans. Mais c'est tout de même moins que les 751 euros d'avant la crise. En Inde, le leader de l'opposition, Rahul Gandhi, promet d'introduire un revenu minimum garanti pour les pauvres si son parti, le parti du Congrès, l'emporte aux élections de mai prochain. L'actuel Premier ministre, le nationaliste Narendra Modi, vient de promettre, lui, des aides aux agriculteurs dans sa dernière présentation de budget d'avant les législatives. Une halte ce dimanche dans la région du Golfe, tout d'abord au Bahreïn. Ce petit émirat a connu un soulèvement dans le sillage de ce que l'on a appelé les printemps arabes. Depuis, la situation des opposants ou défenseurs des droits de l'homme est régulièrement pointée du doigt par les organisations humanitaires internationales. Cette semaine, la Cour suprême de Manama a confirmé en appel la prison à perpétuité pour le chef de l'opposition chiite, Sheikh Ali Salman, accusé d'intelligence avec le Qatar. Le mois dernier, le Bahreïn avait également rejeté l'appel de l'ONU à libérer le militant des droits de l'homme Nabil Rajab. Antoine Madelin de la FIDH parle d'un raidissement des autorités face aux voix qui osent les critiquer.
Depuis les soulèvements du printemps arabe ou à la suite de la mobilisation de citoyens bahreïniens, les autorités soutenues derrière par l'Arabie Saoudite ont organisé une répression extrêmement violente de la mobilisation pacifique de la société civile. Et comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, toute voix dissidente a été arrêtée. Le principal parti d'opposition qui représente la très grande communauté chiite a été d'abord dissous, puis son dirigeant a été arrêté. Et lundi dernier, en effet, le raidissement, et donc du coup, ils ont confirmé cette condamnation-là. On a relevé des condamnations, 2 années de prison pour le secrétaire général de la FIDH, Nabil Rajab, qui a envoyé un tweet dans lequel il dénonçait le fait que le Bahreïn participe à la guerre au Yémen. D'autres défenseurs des droits de l'homme, comme Fadoul Radia Rawaja, ont été condamnés à des prisons à vie quand ils ont appelé à ce que le régime se réforme. Il s'agit ici clairement de situations de délits d'opinion.
Oui, alors est-ce que l'on connaît le nombre de prisonniers d'opinion au Bahreïn ?
On a recensé entre 4 et 5 000 prisonniers d'opinion qui, à l'échelle du pays qui compte 800 000 bahreïniens, correspond à 0,5% de la population. Et c'est le taux d'emprisonnement pour des délits d'opinion le plus élevé au monde. Le Bahreïn, en fait, aujourd'hui, s'affranchit de toute critique internationale. Ils sont soutenus très largement par l'Arabie Saoudite dans leur démarche. Et donc, ils profitent finalement aussi d'une géopolitique régionale totalement favorable à ces climats de répression.
Merci à vous, Antoine Madelin. Je rappelle que vous êtes responsable du plaidoyer à la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Toujours aucune amélioration en vue dans la crise entre le Qatar et d'autres monarchies du Golfe. L'émirat gazier est depuis juin 2017 sous le coup d'un blocus de la part de ses voisins saoudiens, émiriens et bahreïniens. Et Christian Cheneau, même pour une compétition sportive comme la Coupe d'Asie des Nations, remportée vendredi et fêtée hier par le Qatar, le climat a été tel que la demi-finale entre les joueurs qatariens et émiriens s'en est ressentie mardi dernier.
Dans les stades de football, les nerfs sont à vif et l'orgueil national chauffé à blanc. L'humiliante défaite cette semaine, 4-0 à Abu Dhabi de l'équipe des Émirats Arabes Unis face à celle du Qatar en Coupe des Nations d'Asie, a montré que les plaies étaient toujours à vif. Pour mettre la pression sur les visiteurs, les Émiriens avaient acheté toutes les places dans le stade, empêchant les supporters qatariens de venir encourager leur équipe nationale. À la fin du match, les joueurs de l'équipe du Qatar sont sortis du terrain sous une pluie de chaussures, sandales et bouteilles de plastique. Vécue comme une humiliation nationale, cette défaite sera longue à digérer par les Émirats qui ont contesté après coup la naturalisation de 2 joueurs, l'un soudanais et l'autre irakien, au sein de la sélection qatarienne. Entre Bédouins, l'honneur est sacré et depuis l'embargo imposé sur Doha, tous les coups sont permis. Aucune solution à cette crise n'est en vue. Les Émirats et l'Arabie Saoudite n'en font pas une priorité et semblent jouer la stratégie de l'étouffement. Le Qatar, de son côté, fait le dos rond et surtout prépare activement la prochaine Coupe du Monde de football de 2022. La construction des stades avance à une cadence infernale, comme si Doha voulait montrer que malgré la pression de ses voisins, les grands chantiers de cet événement planétaire avançaient comme si de rien n'était.
Et enfin, sachez que le Brexit inquiète aussi les studios de jeux vidéo britanniques où plus d'un tiers des 20 000 employés du secteur sont des ressortissants de l'Union européenne. L'enjeu est d'importance car le jeu vidéo rapporte près de 3,5 milliards d'euros à l'économie britannique. À dimanche prochain.
Merci à vous Nabila Amel. La face cachée du globe à retrouver sur franceculture.fr. Quelques mots de la météo de l'après-midi. De très violentes rafales de vent dans les Pyrénées-Orientales. Quelques averses de neige à l'est et des éclaircies à l'ouest. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux, à la technique Jacques Hubert.